Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et c'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier. Et les enjeux internationaux vont aussi parler de pouvoirs locaux et de corps intermédiaires en creux. En tout cas, on va s'interroger sur cette possibilité ou non d'élection en Libye avant Noël. En tout cas, pour le Premier ministre libyen, la réponse est non, mais la communauté internationale, enfin la France surtout, les réclame alors que la situation sécuritaire est loin d'être réglée. On en parle avec vous Virginie Colombier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Alors, la Libye n'est pas prête, hein, disait Fayez El-Sarraj, le Premier ministre, hier. En témoigne, pour ne parler que d'elle, la situation à Tripoli, des combats entre milices depuis 2011, encore une grosse semaine de bataille fin août, et la menace de l'État islamique toujours présente, hein, le qui a mené une attaque, on se rappelle, fin août aussi, sur le siège de la compagnie nationale pétrolière libyenne. Alors, depuis 2015, l'ONU parraine bien un processus de réconciliation nationale en vue d'établir un pouvoir légitime pour l'instant avec deux entités distinctes mais qui devaient être réunifiées, le GNA, gouvernement d'union nationale civile de Tripoli, et l'ALN, armée de libération nationale du maréchal Haftar à l'est. Le problème, c'est qu'aucune de ces deux instances n'a de force unifiée et l'équation est encore plus délicate puisqu'en installant le gouvernement à Tripoli, passage obligé, la communauté internationale là aussi jeté dans les bras protecteurs des milices, protecteurs et de plus en plus prédateurs, disent beaucoup d'analystes. On parle d'un gouvernement otage. Alors la France cherche à accélérer le processus. Emmanuel Macron pousse pour des élections en bonne et due forme le 10 décembre, ce à quoi s'oppose, on l'a vu cette semaine, l'Italie, mais pas seulement. Alors Virginie Colombier, qui veut vraiment ces élections et puis surtout à quoi mènerait-elles alors que apparemment chaque acteur local a encore ou bien une voix à faire entendre ou bien des cartes à jouer ou bien des pions à pousser. Si on parle des combats qui se sont déroulés à Tripoli, pour l'instant une trêve que tout le monde dit fragile. Qui est-ce qui s'est battu? On parle de 4 brigades à peu près, avec des circonstances qui sont pas très nettes. Des milices qui remontent vers l'aéroport international, d'autres qui attaquent ces fameuses milices au sud, des problèmes de salaire. On a des éclaircissements?
Oui, enfin sur ce qui s'est passé à Tripoli ces dernières semaines, on a une idée assez claire. C'était d'ailleurs quelque chose qui était un peu annoncé par les gens qui suivent la situation économico-politico-sécuritaire à Tripoli. Le paysage des groupes armés à Tripoli a beaucoup changé en fait au cours des 2 dernières années, disons. On est passé d'une situation de très grande fragmentation avec une multitude de groupes armés qui contrôlaient différentes portions du territoire, à une sorte de regroupement et de domination en fait de la ville de Tripoli et des principales institutions par 4 principales brigades qui ont progressivement éliminé à peu près tous les autres et tous leurs concurrents. La caractéristique de ces 4 principaux groupes armés, c'est que ce sont des groupes qui sont originaires de Tripoli, pour la plupart, ce qui est assez différent de la situation qu'on avait avant, parce qu'on avait auparavant des groupes armés qui venaient d'autres villes, comme par exemple les villes de Misrata ou de Zintan. Là, on a eu vraiment une concentration des forces de gens qui sont originaires de Tripoli, mais qui surtout, en plus de leur contrôle du territoire, ont progressivement renforcé leur influence et leur pouvoir en contrôlant un certain nombre d'institutions clés, en contrôlant les banques, ce qui, dans le contexte économique actuel, est extrêmement important. Ils sont petit à petit infiltrés en fait dans tous les rouages des institutions économiques et politiques. Et c'est ce qui a provoqué en fait les heurts de ces dernières semaines, parce que tous les groupes qui ont été exclus de cette nouvelle carte de contrôle du territoire, depuis déjà plusieurs mois, faisaient exprimer en fait leur mécontentement en fait d'être exclus du partage du gâteau très très lucratif pour les brigades qui contrôlent actuellement la ville. Et qui donc ont commencé à créer de nouvelles alliances et à attaquer certains des sites et certaines des brigades qui aujourd'hui sont en contrôle.
Donc il s'agissait de contrôler physiquement un certain nombre de lieux de pouvoir et l'aéroport international aussi, si j'ai bien compris, aéroport international de Mitiga à l'est de Tripoli.
L'aéroport fait partie de ces infrastructures stratégiques et de ces sites qui sont considérés en fait comme des ressources pour les principaux groupes armés qui combattent. Non seulement parce que c'est l'unique point d'entrée, mais aussi parce que arrivent des marchandises, arrivent des choses, et donc c'est un site sur lequel on peut obtenir de l'influence, du pouvoir et des ressources économiques.
Et alors lors de ces combats à Tripoli, ça a eu plusieurs conséquences. Hein. Il y a eu notamment la prison de Ayn Zahra qui a été ouverte par une brigade. 400 détenus s'en sont enfuis, dont 45 kadhafistes. Je parlais de cette attaque EI sur le siège de la compagnie nationale pétrolière. Si on parle du gouvernement, qu'est-ce qu'il contrôle réellement en termes d'institutions, ou posé autrement, quelle est l'influence de ces milices sur le gouvernement ?
L'influence de ces milices a beaucoup grandi au cours de l'année écoulée. En fait, le problème principal vient même des conditions dans lesquelles le gouvernement en Union nationale a été installé à Tripoli. Le gouvernement est le résultat en fait d'un accord qui a été forcé en grande partie par la communauté internationale en fin 2015, un peu par raison d'impatience en fait face à des négociations qui duraient et qui n'aboutissaient à rien. Donc la communauté nationale a forcé la signature de l'accord pour avoir enfin un gouvernement légitime et représentatif. Le problème, c'est comme ce gouvernement ne dispose d'aucune force de sécurité en propre, ils ont été dès le début et dès l'installation à Tripoli complètement dépendants des principaux groupes armés qui ont bien voulu lui faire allégeance, entre guillemets, qui contrôlent le territoire et dont il dépend, en fait, pour pouvoir, principalement même rester sur le territoire de la ville de Tripoli.
Alors, de ce point de vue-là, parler d'un gouvernement otage, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs rapports internationaux assez alarmants et accusateurs, notamment du Small Arms Survey ou d'un institut allemand cette année, qui, et même pour l'ONU, les groupes armés, je cite, ont exercé une influence de plus en plus marquée sur les institutions de l'État libyen. Il s'agit de contrôle physique ou il s'agit d'entrisme et de placer des hommes à la tête de pouvoirs politiques ?
L'utilisation du terme otage n'est pas complètement exagérée, je pense. On a effectivement, par ailleurs, un changement en fait dans l'influence que les groupes armés ont pu exercer au cours de l'année écoulée. On est passé d'une sorte de lutte pour un territoire et contrôle d'institutions physiquement, parce que ça voulait dire contrôler des institutions, ça permettait de faire pression sur la prise de décision, à quelque chose qui est devenu beaucoup plus intrusif et beaucoup plus compliqué, où on a une sorte d'imbrication des réseaux donc de groupes armés qui ont placé des gens de l'administration à des postes influents au sein d'un certain nombre de ministères, utilisant la force armée pour faire pression. Et on a également surtout un rôle de plus en plus important dans les réseaux économiques. L'économie formelle et informelle, c'est de plus en plus, la frontière entre les deux, c'est de plus en plus et de plus en plus flou. Et les groupes armés utilisent le contrôle qu'ils ont maintenant sur un certain nombre de réseaux économiques pour accroître leur influence. Donc on n'est plus sur une situation seulement contrôle physique sécuritaire, on est passé vraiment dans une situation où les groupes armés ont maintenant un rôle central dans les institutions de l'État, que ce soit politique ou économique, financier.
Oui, et pas seulement à Tripoli. Et d'ailleurs, un bon exemple, c'est ce chef de groupe, Ibrahim Jadran, qui se trouve dans l'Est, qui a pris des terminaux pétroliers et qui a tenté de vendre du pétrole cette année même. Cette année ou c'était il y a quelques années, pardon.
Bah, Ibrahim Jadran est une figure assez emblématique en fait du développement en Libye ces dernières années. C'est à la fois une personne assez jeune qui a été à la tête d'un groupe armé, pour faire simple, et qui à plusieurs reprises a été officiellement chargé initialement de la sécurité des installations pétrolières.
Voilà, garde des installations pétrolières.
En a profité pour se servir et essayer justement de lui-même vendre du pétrole à l'étranger. Il n'a pas été le seul à faire ça. Jadran est aujourd'hui souvent cité comme une figure de référence, mais c'est un peu ce qui se passe à l'échelle du pays et avec la plupart des groupes, c'est que qui contrôle une source de ressources, que ce soit pétrolier, financier, etc., essaye d'en bénéficier à son profit. Ouais. Donc il fait un peu comme tous les autres font, malheureusement, et de plus en plus depuis maintenant plusieurs années.
Bon, et de ce point de vue-là, alors, je disais, c'est cette perspective d'élection qui est poussée par la France depuis notamment une réunion de mai 2018 avec toutes les parties libyennes. Qu'est-ce qu'elle vaut ? Il y a un profond désaccord, là, on l'a entendu cette semaine, entre la France et l'Italie sur cette question, mais pas seulement entre France et Italie. Djalel Archaoui, chercheur, disait que c'était un espoir aveugle de la diplomatie française. C'est sévère, vous êtes d'accord ?
Je pense que la focalisation sur les élections est simplement le résultat d'une fin, et avant tout le résultat d'une sorte d'impuissance à obtenir un accord politique entre les différentes parties depuis maintenant plusieurs années. En l'absence d'une espèce de l'idée de comment sortir de la crise, comme souvent, les élections sont présentées comme la ressource. Je pense que du côté des Libyens, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est ressorti des consultations des Nations Unies au niveau local au cours des derniers mois, une partie de la population libyenne est tellement exaspérée aussi de ces luttes de pouvoir et de la situation économique, politique, que voit aussi, a tendance à voir dans les élections une sortie de crise. Le problème, c'est que, encore une fois, c'est un peu une situation, c'est un peu une option qui est mise sur la table et qui est forcée sur la table en l'absence d'autres alternatives. Mais le contexte et les principaux points d'opposition sont sur la méthode et sur le calendrier. La réunion qu'a organisée ou qu'a parrainé le président Macron en août a mis beaucoup l'accent sur ces élections. Le problème, c'est que tout le monde s'accordait à dire dès août déjà que et le contexte, le cadre légal et la situation militaire sécuritaire en Libye risquait de rendre très difficile, voire impossible, la tenue d'élections en décembre comme souhaité. Par ailleurs, il n'est pas du tout dit, dans le contexte actuel, que des élections résolvent le problème. On a eu plusieurs séries d'élections en Libye depuis 2012, et en l'absence d'accord sur les règles du jeu et sur le cadre constitutionnel et sur la répartition des pouvoirs, à chaque fois ce qui s'est passé, ces élections ont provoqué davantage de fragmentation.
Eh bien, c'est dit. Merci beaucoup. À suivre, en tout cas. Merci Virginie Colombier.